terminer cette heure sur un... Le journal Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. 20 morts et 26 blessés, nouvelle fusillade aux États-Unis. Ça s'est passé dans un centre commercial au Texas. Un homme a été arrêté, le mobile raciste est envisagé par la police. Une ONG parle de la 250e tuerie cette année aux États-Unis. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur l'immense carrière de Jean-Claude Boutier. Le boxeur nous a quittés hier, sans oublier la nouvelle tentative de Frankie Zapata. Il va tenter dans les prochaines heures, voire les prochaines minutes, de traverser la Manche avec son flyboard.
Et les deux invités de la matinale, 7h50, Barbara Coué, infirmière à l'hôpital Lariboisière à Paris et coordinatrice nationale du mouvement Interurgence. 8h20, le grand entretien. Ce matin, Pénélope Bagieu, l'auteur des Culottés, a reçu cet été le prix Will Eisner, l'un des plus prestigieux prix de la bande dessinée dans le monde.
France Inter.
20 morts et 26 blessés, nouvelle fusillade donc aux États-Unis hier soir.
La police parle d'un crime de haine, ça s'est passé à El Paso, une ville à la frontière avec le Mexique. Ça s'est passé aux abords d'un centre commercial prisé de la communauté hispanique. C'était le matin là-bas quand un homme a ouvert le feu sur la foule. Aux États-Unis, en direct avec nous, Loïc Lory. Loïc, un suspect a été arrêté, il serait blanc et âgé de 21 ans.
Oui, un t-shirt noir, un pantalon cargo, on le voit entrer cet individu sur des vidéos de surveillance avec son arme dans ce supermarché Walmart où il a semé la mort avant de se rendre. Une enquête a été ouverte, vous en parliez pour un possible crime de haine. Le FBI de son côté a lancé une procédure pour terrorisme intérieur. Il faut dire qu'un manifeste attribué au tireur circulait sur Internet. Le texte évoque, Raphaël, une invasion hispanique du Texas. Il fait aussi référence à la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande, un massacre perpétré par un suprémaciste blanc. À El Paso, le tireur lui a ouvert le feu vers 10h alors que des milliers de personnes se trouvaient dans le secteur pour faire leurs courses à quelques jours de la rentrée scolaire. La ville est peuplée en majorité de latino-américains. El Paso, régulièrement cité dans l'actualité, c'est un peu l'épicentre de la crise migratoire dénoncée souvent et violemment par Donald Trump. D'ores et déjà, la rhétorique raciste du président américain, notamment ces derniers jours à l'égard de plusieurs élus du Congrès, est pointée du doigt comme un terreau propice à cette violence. Cela avait été le cas, Raphaël, il y a quelques mois après la tuerie antisémite de Pittsburgh.
Merci Loïc Lory, en direct avec nous depuis les États-Unis. Et le président américain que vous évoquiez a réagi. Donald Trump dénonce un acte de lâcheté. Le gouverneur du Texas, le républicain Greg Abbott, parle d'une catastrophe. Et puis élan de solidarité au sein de la population d'El Paso avec ses nombreux dons de sang pour les blessés. Ils sont âgés de 2 à 82 ans. L'actualité à l'étranger, ce sont aussi ces 20 arrestations annoncées il y a quelques heures par la police hongkongaise. Bilan d'une nouvelle journée de manifestations pro-démocratie hier dans le territoire autonome. Elles ont duré jusqu'à tard dans la nuit et ont dégénéré en affrontements. De nouveaux rassemblements attendus aujourd'hui avant une grève générale prévue lundi.
Manifestations également en Russie, réprimées ces manifestations de l'opposition hier.
828 arrestations comptabilisées par l'ONG OVD Info, comme la semaine dernière. Ce rassemblement à Moscou pour demander des élections municipales libres en septembre prochain n'était pas autorisé. Mais même sans leur leader, les opposants au pouvoir de Vladimir Poutine semblent déterminés, comme Elena, présente hier dans les rues de la capitale russe.
Je fais partie de ces gens qui pensent, comme McMurphy, le personnage de Jack Nicholson, dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, au moins j'ai essayé. C'est ma philosophie de vie. Vous savez, vous dire que je n'ai pas peur d'être arrêté, ce serait un pur non-sens. Cela voudrait dire que je suis quelqu'un de complètement anormal. Je crois que tout le monde, sans exception, a peur. Et je connais beaucoup de gens qui ne viennent pas parce qu'ils ont peur. Mais d'un autre côté, si vous avez peur des loups, ne vous promenez pas dans les bois. J'ai de plus en plus peur dans ce pays, de la direction vers laquelle nous allons tous maintenant. Ça risque de déboucher sur un précipice économique et une grave crise politique. Je crois donc bien sûr que c'est encore plus effrayant. La vie ne s'arrêtera pas après nous. Nous avons des enfants et j'espère que nous aurons des petits-enfants. Et c'est pourquoi je ne voudrais vraiment pas qu'on revienne à l'Union soviétique, même si nous sommes tous nés et avons grandi dans ce pays.
Voilà, près de 800 arrestations hier. On le rappelle, la semaine dernière, 1400 personnes avaient été arrêtées. Des arrestations à Nantes hier aussi, une quarantaine dans le cadre d'une manifestation d'hommage à Steve. Manifestation en marge de laquelle des barricades ont notamment été érigées. Alors, il n'y a pas qu'à Nantes que des rassemblements pour Steve avaient lieu, à Paris également, où ce sont des gilets jaunes qui avaient lancé un appel. Un cortège de plusieurs centaines de personnes a ainsi défilé de la place de Clichy à celle de la République. Quelques tensions à signaler, mais rien de comparable aux événements de Nantes. Reportage de Sarah Tucherer.
Qui a tué Steve? La question est posée sur la banderole en tête de cortège. Pour les manifestants, la réponse ne fait pas de doute. La police en général est coupable. Louise, professeure des écoles, ne lui fait plus confiance.
Alors vous savez, moi j'ai toujours été élevée dans le respect des forces de l'ordre, de la justice. Voilà, je fais partie de la classe moyenne. C'est proche de zéro maintenant, mon respect envers eux. Maintenant, je ne me sens plus en sécurité quand il y a un policier à côté de moi.
Sur le parcours, des manifestants s'approchent des forces de l'ordre en lançant des slogans très hostiles. On en reste au stade de l'invective. Isabelle aurait préféré plus de dignité.
Je suis venue vraiment pour honorer la mémoire de Steve. Par contre, là, ça dégénère et je comprends pas.
Vous auriez voulu une manifestation silencieuse, peut-être sans...
Un hommage. S'ils ont envie de se prendre la tête, qu'ils se la prennent, mais plus loin, plus tard, ailleurs que pour Steve.
Pour ce 38e samedi de mobilisation, les Gilets jaunes ont rassemblé plus de monde que ces dernières semaines. Alex y voit un encouragement pour la suite.
Depuis le début, moi, je suis gilet jaune. Là, les vacances commencent à approcher. Je me suis dit, bon, je vais me calmer un petit peu. Qu'est-ce que j'apprends? Un gamin est en train de faire une fête. On arrive, on le pousse dans un fleuve. Mais je me dis, non, allez, Alex, faut que tu bouges. Et là, on est là.
Les gilets jaunes promettent de poursuivre leur mobilisation avec un mot d'ordre élargi à la question des violences policières.
Et c'est à lire dans le JDD d'aujourd'hui. Un sondage IFOP révèle que la police inspire sympathie et confiance à 71% des Français. C'est normalement aujourd'hui de Marseille que l'Océan Viking, nouveau bateau d'SOS Méditerranée et de Médecins Sans Frontières, doit partir en mission de sauvetage de migrants. Le bateau humanitaire peut accueillir jusqu'à 200 personnes.
Ces deux combats perdus contre Carlos Monzon l'avaient rendu très populaire. Le boxeur Jean-Claude Boutier s'est éteint hier à 74 ans.
Mort des suites d'une maladie, il est considéré comme une légende de la boxe chez les poids moyens. Jean-Claude Boutier, ce sont des titres de champion de France et d'Europe, mais aussi, vous l'avez rappelé Laetitia, deux échecs pour conquérir la ceinture mondiale contre Monzon l'Argentin. Le portrait de Jean-Claude Boutier par Antoine Martin.
Stade de Colombes, 35 000 personnes, 20 minutes pour aller des vestiaires jusqu'au ring parce que tout le monde voulait me toucher. C'est un truc qu'il faut pouvoir vivre, c'est un rêve.
Un rêve, remporter la ceinture mondiale des poids moyens. Jean-Claude Boutier en sera tout proche au cours de sa carrière. Champion de France en 71, puis champion d'Europe. La route est toute tracée.
T'es numéro 2 dans le monde et tu veux devenir numéro 1 dans le monde. Tu regardes Saint-Pierre Lacour, dis donc, il a fait du chemin quand même, c'est sympa quoi.
Repéré par Alain Delon qui l'entraîne et finance le combat de sa vie, par deux fois en 72 et 73, il est battu par l'Argentin Carlos Monzon pour le titre mondial. Son ami de toujours, le nageur Alain Mosconi.
Le problème c'est que Jean-Claude a été probablement un des plus grands boxeurs français. Il avait un défaut qui est une qualité merveilleuse, c'est la gentillesse. Lui a manqué, c'est peut-être d'être un méchant sur le ring.
Boxeur au cœur tendre, fidèle et charismatique, le petit gars de Saint-Pierre-la-Cour trouve sa reconversion. Consultant boxe de 85 à 2011 sur Canal+ avec Charles Bietri, une vie entière autour de la boxe, même avec le louche en 81 dans Les Uns et les Autres, Boutier remet les gants une dernière fois pour jouer face caméra le rôle de sa vie.
Et le bilan en carrière de Jean-Claude Boutier, 64 victoires en 72 combats, dont 43 par KO. On compte aussi un match nul pour cette petite défaite. Cette question dans l'actualité à 7h08 sur France Inter. Va-t-il y arriver une semaine après son échec? Francky Zapata, alias l'homme volant, se lance à nouveau dans la traversée de la Manche en flightboard. Vous savez, cette machine qui a fait le spectacle pendant le défilé du 14 juillet. Alors il doit partir de Sangatte dans le Pas-de-Calais dans les prochaines heures. On ne sait pas exactement quand, mais on vous tient évidemment au courant sur France Inter. En attendant, je vous propose de revenir sur les précédentes traversées un peu insolites de la Manche et réussies. On voit ça avec Rosalie Lafarge.
Il y a ceux qui l'attendent par les airs, la traversée de la Manche. Dès 1785, le Français Jean-Pierre Blanchard décolle de Douvres en Montgolfière et rejoint les côtes françaises moins de 3 heures plus tard. 120 ans après, Louis Blériot mettra 4 fois moins de temps à faire le voyage en sens inverse à bord de son avion, 37 minutes de Douvres à Calais. En 1988, Yves Marr, un inventeur français, traverse avec son propulsar, un parapente à moteur de sa fabrication. L'Autrichien Félix Baumgartner parvient lui en 2003 à passer d'une côte à l'autre à 200 km/h en chute libre, équipé d'un aileron en carbone. D'autres préfèrent se mouiller un peu. Le Britannique Matthew Webb est le premier à traverser à la nage en 1875. Exploit maintes fois renouvelé depuis, mais l'histoire retiendra notamment Philippe Croizon, amputé des quatre membres qui dompte la Manche en 13 heures en 2010. La Manche qui sera aussi traversée en monoski, en kayak, en pédalo ou encore pour le Vénitien Vittorio Orio en gondole.
Voilà les détails de Rosalie Lafarge.
Merci Raphaël Delvolvé. Le temps pour Francky Zapata et le reste de la France. Jean-Pierre Hameau, journée estivale.
Oui, avec des températures qui vont monter d'un cran aujourd'hui, avec des valeurs comprises entre 30 et 37 degrés. Dans le détail, prévoyez 30 à Strasbourg et Bordeaux, 31 à Reims, Nancy et Toulon. On attend 32 degrés à Paris comme à Tours, Grenoble et Limoges. Comptez 33 à Orléans et Perpignan, 34 à Lyon et Toulouse. Et la maximale de 37 degrés sera une nouvelle fois observée à Nîmes. En revanche, il fera beaucoup moins chaud entre le Finistère et le Cotentin. N'attendez pas plus de 21 degrés à Brest et 23 à Cherbourg. Et puis côté ciel, la journée sera estivale dans la plupart des régions, excepté de la Bretagne au Pays de Loire et jusque vers la Normandie où le ciel sera couvert avec en prime quelques gouttes d'eau.